Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Aignot, et comme vous le savez, vous êtes mercredi, donc vous êtes sur une leçon du podcast. Alors, pour ceux qui ne connaisseraient pas encore ces leçons, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, un moment où on va passer, 30 minutes ensemble avec l'un d'entre vous, puisque finalement, c'est l'un des auditeurs du podcast qui m'appelle pour que je réponde au mieux à l'une de ces questions. Ce sont en général des questions autour de l'entrepreneuriat, ça va être des questions finalement autour du développement personnel, des RH, plein de sujets qui me passionnent et sur lesquels on va discuter avec l'un d'entre vous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gauthier, qui est le fondateur d'une très jolie nouvelle marque appelée Atelier Flamel. Je vous mets le lien, n'hésitez pas à la consulter. Il est expert dans son domaine et dans un domaine qu'il estime pas très sexy, c'est un concept alimentaire autour, en gros, des produits fermentés non pasteurisés. Et donc, on parle un petit peu de tout ce qui est pas très sexy, ce qui se passe dans le ventre, c'est-à-dire de microbiote, c'est-à-dire de flore intestinale. Bref, des sujets qui font un petit peu peur à ce bon Gauthier qui me dit, mais comment convaincre des clients et des consommateurs de tester, d'adhérer à ces produits alors que le discours est pas forcément très sexy? Eh bien, c'est une question à laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre avec Gauthier et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Gauthier.
Salut Pauline.
Écoute, merci d'avoir postulé à cette leçon. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer, comme le veut la coutume, par te présenter et puis ensuite me dire qu'est-ce qui t'amène ici?
Oui, très bien. Déjà, merci de me recevoir. Alors, je m'appelle Gauthier Maubuchon. J'ai 25 ans et je suis en train de lancer un business innovant dans la food. Et je viens te voir justement pour te poser une question à ce sujet. Donc, pour te expliquer un peu le contexte, j'ai lancé il y a quelques mois mon activité qui s'appelle Atelier Flamel, F-L-A-M-E-L, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, qui est en fait un concept culinaire pour créer de l'alimentation de demain, une alimentation qui sera à la fois gourmande et bonne pour la santé, et notamment le renforcement du microbiote intestinal. Donc, j'ai toute une approche de conception de produits. Et du coup, là, ma question, c'est comment réussir à créer un discours commercial séduisant, parce que on parle quand même là de la santé, de l'intestin, de second cerveau. Donc, du coup, c'est un peu antinomique pour moi.
Et en fait, pour que je comprenne ta question précisément, ce qui te fait peur, c'est que le fait de parler de flore intestinale et de, on va dire, de problèmes de digestion, si j'ai bien compris ton propos, c'est que c'est pas très sexy et donc t'as envie d'essayer de creuser avec moi comment faire en sorte d'avoir un discours de marque plus sexy, c'est ça?
Il y a ça en effet, et surtout en fait, ma spécialité, c'est la fermentation. Donc en fait, je crée des produits fermentés et non pasteurisés. Donc ce qui leur permet en fait de développer des probiotiques, donc des bactéries actives qui vont renforcer le microbiote intestinal. Donc, c'est à la fois un discours autour de la fermentation qui est une pratique incomprise par les Français et aussi un discours autour de l'alimentation santé. Donc, du coup, je ne sais pas vraiment sur quel pied danser au niveau de mon concept.
Ok. Alors, pour être concret, peut-être, je sais pas quels sont les à quel niveau exactement en fait est-ce que tu veux situer cette conversation. Si c'est sur ta communication générale, par exemple sur ton site internet, sur tes réseaux sociaux, si c'est plus vraiment déjà uniquement au niveau du concept que tu veux réfléchir. Moi déjà, ce que je peux te dire, c'est je pense qu'en fait, t'as au contraire un boulevard devant toi et j'aurais pas du tout peur d'être, on va dire, dans une démarche pédagogique. Au contraire, si tu dis et ça, tu sembles connaître ton métier, que les Français notamment ne connaissent pas très très bien le concept de fermentation, c'est génial parce que ça veut dire que tu vas pouvoir les éduquer et tu vas pouvoir donc certainement devenir expert et ta marque va devenir référente dans son domaine et du coup forcément ça intéressera quelques personnes. Je dis pas tout de suite que ça intéressera tout le monde, mais les sujets de la santé, du bien-être, être bien dans son corps, bien dans ses baskets, c'est quand même des sujets qui intéressent globalement quand même beaucoup de monde. Et donc si jamais juste toi t'as un axe différent qui en plus est peu connu du grand public, tant mieux, bravo à toi, parce que j'ai envie de te dire, c'est pas si facile que ça justement de trouver des axes nouveaux dans ce domaine. Donc moi je suis plutôt assez optimiste, mais donc je pense que j'adopterai assez tôt dans l'histoire de la marque. Je sais pas où vous en êtes, tu pourras peut-être me donner plus de détails là-dessus, est-ce que vous avez déjà justement lancé vos produits, pas encore, etc. Parce que je pense que t'as tout intérêt à vraiment avoir assez tôt dans l'ADN de ta marque une démarche éducationnelle, pédagogique, où tu vas éduquer donc le consommateur sur ces nouveaux usages, parce que visiblement, en fait, il n'en a pas l'habitude. Et tu vas te rendre compte que les consommateurs, en général, adorent apprendre, notamment quand on est sur des sujets qui touchent évidemment à la santé. Mais même, sincèrement, dans un sujet comme le mien, qui est la joaillerie, où on pourrait se dire c'est assez futile, moi, je peux te garantir que les gens adorent apprendre de nouvelles choses, en fait. Et c'est en s'intéressant à quelque chose de nouveau, parce qu'ils vont apprendre, qu'ils vont devenir un peu plus experts, et du coup, qu'ils vont aussi, bah, finalement, aimer une marque qui va leur apporter quelque chose d'autre que juste un beau produit ou un produit qui leur fait du bien. Donc, je pense que tu as plutôt intérêt à creuser ce sujet. Et cette éducation, en fait, elle peut passer par beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit des lives où tu interagis, tu vois, avec des personnalités du monde de la santé. Ça peut être de parler de vos produits. Ça peut être pas uniquement sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Ça peut être aussi sur votre site internet. Ça peut être via un blog, enfin, via un podcast, pourquoi pas. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu que tu pourrais créer sur le sujet qui intéresserait une audience autour du bien-être, qui naturellement ensuite se centrerait autour de ta marque. Je sais pas si ça te parle, que je suis en train de te raconter.
Oui, oui, ça me parle, justement. J'écoutais attentivement. Pour répondre à tes premières questions au début, donc là, c'est à la fois, en fait, un discours commercial pour mes futurs clients, qui sont des particuliers. Et les professionnels, mais le discours professionnel, je l'ai déjà. Et après, c'est surtout, moi, j'ai un enjeu, notamment, comme tu l'as compris, c'est l'éducation, parce que le cœur, l'une des valeurs très importantes de mon métier, de la cuisine, c'est justement, j'aime partager ma passion. Donc, du coup, là, je suis en train de réfléchir à une stratégie sur les réseaux sociaux, notamment, pour avoir tout un aspect éducationnel. Et là, j'organise déjà actuellement des ateliers de cuisine où j'ai toute une approche vraiment éducative où je raconte des histoires, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est bon. Mais en fait, c'était là, je me posais la question, est-ce que ça, c'est vraiment transposable quand on essaye de vendre? Parce que souvent, quand je voyais les 2-3 expériences personnelles ou quand on parle trop, ça ennuie les gens. Donc j'essaye en fait de trouver cet équilibre à la fois dans des reels, alors sur Instagram et sur TikTok. Je suis en train de réfléchir à me lancer sur TikTok par rapport à ça, où ce serait vraiment que de la cuisine avec et sans mes produits, mais de la cuisine quand même, et avoir sur l'Instagram beaucoup quelque chose de tout de suite un petit peu plus technique, où je ferai des approches. J'ai prévu de parler avec des diététiciens, j'ai prévu de rencontrer du monde et de présenter, faire de la vulgarisation culinaire, et surtout en profiter pour valoriser et présenter mon expertise. Faut savoir qu'à l'origine de ce projet, c'est en fait j'ai écrit un livre et c'est ce livre qui m'a donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat cette année. C'est pour ça que je te disais que c'est un projet que je travaille depuis quelques mois.
Franchement, raison de plus, si tu as autant d'expertise, c'est formidable. Franchement, bravo à toi déjà. Et je pense que tu as tout intérêt à utiliser cette expertise et à la valoriser. Donc, comme tu le disais là sur les réseaux sociaux, sur TikTok, j'attire juste ton attention que je le dis pour toi, évidemment, pour toutes les personnes qui nous écoutent. C'est pas parce que c'est en reel, c'est pas parce que c'est sur TikTok que ça doit être débile. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui identifient en fait tous ces nouveaux, on va dire, formats, tu vois, très très courts, très snap content, comme des formats où en fait on peut pas apporter beaucoup de valeur ajoutée. Toute la difficulté de l'exercice, c'est justement ça, c'est en fait de réussir à quand même apporter de la valeur ajoutée dans un temps très court, sachant qu'en plus les reels aujourd'hui c'est plus seulement 15 secondes, c'est passé c'est passé une minute, c'est ça, et ils sont en train de parler sur TikTok de passer par exemple à 10 minutes, on est à 3 minutes, ça peut passer à 10 minutes. Donc c'est pour te dire qu'en une minute tu peux quand même raconter des choses, pareil en 3 minutes sur TikTok, peut-être à venir en 10 minutes sur TikTok on peut raconter des choses, et puis après t'as d'autres médias aussi comme le blog, j'en parlais, LinkedIn, génial, tu vois, pour faire de l'éducation aussi, LinkedIn, franchement, très, très souvent assez négligé. Moi, c'est un média que j'utilise beaucoup. Donc voilà, je voulais juste faire un petit aparté peut-être, mais je pense que cette démarche, en fait, elle est très intéressante de ton côté. Et moi, j'aurais tendance à dire, utilise-toi, en fait, pour faire un peu ce que je fais avec Gémio, très honnêtement, mais devenir un peu l'ambassadeur de ta propre marque, parce que ça va humaniser la marque. Ça va rendre le discours probablement un petit peu moins chiant que si c'est juste, tu vois, un texte écrit de manière assez déshumanisée qui fait un peu professoral, on va dire. Si toi, tu parles de ton parcours, de ton expérience, comment t'es venu à t'intéresser à ces sujets et que t'en parles avec passion parce que c'est ta passion, effectivement, franchement, il n'y a pas de raison que ça n'intéresse pas plusieurs milliers de personnes assez rapidement.
Non, je suis d'accord avec toi sur, je l'ai peut-être mal exprimé, mais je pense pas justement que les vidéos sur les Reels ou les TikTok sont justement débiles dans ce sens-là. Au contraire, c'est, je vois comment ça fonctionne aujourd'hui. Et justement, en fait, la stratégie que j'avais en tête, c'était faire que de la food sur TikTok, relier mon compte Instagram à mon compte TikTok, et comme ça, les gens verraient à ce moment-là, bah, plus, ils auront les vidéos sur TikTok et ils auront des posts informatifs et des témoignages sur Instagram. Et là, pour en avoir parlé avec des amis il y a quelques jours, on m'a fait remarquer que ça pourrait être même intéressant de, on m'a expliqué qu'il faut impérativement personnifier la marque. Moi, j'étais plus à l'aise d'être derrière le téléphone et pas me mettre en avant. Donc, je vais devoir apprendre à faire ça.
T'es pas obligé, hein. Je rebondis. T'es pas obligé. Tout le monde n'est pas obligé de personnifier, d'incarner sa marque. Disons que c'est plus facile. C'est plus facile parce qu'en fait, du coup, les personnes qui sont de l'autre côté de l'écran, faut se mettre un peu à leur place. Au lieu de juste voir, en fait, des textes, vont voir quelqu'un. Et donc, naturellement, quand tu vois quelqu'un, bah, ça crée un peu plus un lien de confiance, tu vois. Si jamais c'est toujours toi qui parle de l'autre côté de la caméra, bah, naturellement, un peu comme moi avec le podcast ou sur mes réseaux sociaux, en fait, les gens vont commencer à me connaître. Et donc, s'ils commencent à me connaître, bah, ils commencent à me faire confiance. Et donc, bah, s'ils ont confiance, naturellement, ils vont plus consommer mes produits ou en tout cas trouver que ce que je dis peut être pertinent. Donc, c'est un peu pareil pour toi. Donc, je dirais pas que c'est une nécessité. Je dis juste qu'entre un site ou des contenus qui sont purement informationnels, mais qui sont extrêmement déshumanisés et au contraire, des contenus qui sont incarnés, les contenus incarnés ont le mérite, en fait, de créer plus facilement la confiance, quoi.
En effet, je comprends mieux. C'est l'enjeu du personal branding à ce moment-là.
Après, le souci, entre guillemets, c'est qu'au bout d'un moment, si jamais tu n'as plus envie uniquement de faire ces contenus toi tout seul, ça peut être un petit peu enfermant, mais bon, ça reste quand même, je trouve, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on va dire, une utilisation de son temps qui est très bonne parce que, ben, elle crée la confiance, elle crée aussi, ben, finalement, tu vas être très attaché à ta marque et tu vas vraiment donner des contenus, en fait, qui te tiennent à cœur à toi, fondateur. Donc, moi, ben, t'as compris que c'est la stratégie que j'ai adoptée, même si sur Gemio, je suis pas si présente que ça, mais malgré tout, je le suis un petit peu. Et donc, ben, tout l'enjeu, c'est de d'abord réussir à faire émerger sa marque en créant la confiance, donc peut-être via du personal branding, et puis peu à peu de réussir aussi à laisser exprimer le jour où ça sera nécessaire le reste de ton équipe. Quand je te souhaite, t'en auras une qui sera nombreuse. Mais bon, ça, on va dire que c'est un problème qui vient dans un second temps. Donc moi, j'aurais tendance à dire, franchement, t'as plutôt intérêt effectivement à prendre un maximum la parole, surtout si t'es expert. C'est ça qui est assez génial. Et après, par rapport à ta question, il me semblait aussi avoir compris que au-delà du fait que tu n'étais pas forcément sûr que c'était nécessaire d'éduquer, moi je pense que oui, c'était de se dire, mais en fait, à un moment donné, comment est-ce qu'on transforme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on convertit, comment est-ce qu'on peut passer d'une démarche éducationnelle à une démarche qui est plus transactionnelle si, ou commerciale, si j'ai bien compris. Bah, en tout cas, sur le point là que j'évoquais, je ne sais pas si tu as vu, sans vouloir te vendre ma soupe, mais j'ai fait une formation qui s'appelle l'art de la vente, précisément sur ce thème en fait, parce que ma réalisation quand j'ai fait cette formation, c'est que beaucoup de personnes sont persuadées que vendre, c'est sale, et que vendre, c'est forcément d'essayer d'être racoleur, si tu veux, et de dire, de mettre des prix barrés partout sur son site en jaune fluo, en disant moins 50% avant telle date, etc. Nous, chez Gemio, on ne fait pas de code promo, par exemple. Et honnêtement, j'en suis plutôt très contente parce que pour moi, en fait, c'est juste une espèce de... Tu rentres dans une espèce de course permanente, en fait, à faire plus de code promo, etc. Nous, on essaie d'avoir des prix justes tout le temps et donc on l'a communiqué très clairement à nos clients. Et du coup, les gens savent qu'ils sont logés tous à la même enseigne, qu'il n'y a pas de passe-droit et que, enfin, si tu veux, que tu achètes maintenant ou dans un an, ça sera le même prix s'il n'y a pas d'augmentation de prix. Et donc, tout ça pour te dire que l'art de la vente, pour moi, c'est précisément ça. C'est pas d'essayer d'être racoleur, c'est pas d'essayer de refourguer un produit tout de suite à quelqu'un qui n'en veut pas, mais c'est de rendre tellement service à ton audience qu'à un moment donné, quand elle va avoir un besoin, en fait, tu vas carrément créer le désir pour elle. C'est-à-dire que cette audience, elle s'intéresse peut-être, tu vois, à la santé de manière générale, sans connaître ton domaine de la fermentation spécifiquement, mais tu vas tellement bien en parler, tu vas, dans le cadre, en fait, de ta démarche éducationnelle, tellement expliquer en quoi c'est important par rapport à tel autre domaine, si tu veux, de la santé, en quoi c'est négligé, etc. Tu vas leur apprendre. Et donc, assez naturellement, tu vas te rendre compte, ça va prendre un peu de temps. Ces personnes-là, en fait, vont te dire, mais attends, où est-ce que je peux, du coup, comment est-ce que je peux faire pour avoir des produits avec de la fermentation? Parce que moi, je sais pas. Bon, et naturellement, comme tu as ton atelier Flamel, tu vas pouvoir leur proposer. Mais donc, j'ai envie de te dire que, contrairement à l'idée reçue, il ne faut pas avoir une démarche éducationnelle et une démarche commerciale qui sont antithétiques, où il y en a une où tu vends pas du tout et l'autre était complètement dans un monde théorique, si tu veux, où tu parles de tes concepts d'expert. Et à l'inverse, une démarche agressive de vente. Au contraire, moi, je pense qu'il faut être extrêmement naturel et homogène dans sa communication. C'est-à-dire, en permanence, faire de l'éducationnel, tu as tout intérêt à ce que ton audience, bah, déjà, c'est comme ça que tu vas l'acquérir parce qu'elle va s'intéresser à tes sujets, mais à l'informer, en fait, et à vraiment lui apporter de la valeur. Ça, c'est vraiment un message que je dis très souvent, c'est pour moi la clé de la création d'une communauté sur les réseaux sociaux. Et une fois que tu crées de la valeur, en fait, tu vas te rendre compte que très naturellement, cette audience va vouloir consommer tes produits parce qu'elle te fera confiance. On en revient toujours à cette notion de confiance. Si elle a appris quelque chose de ta part, Gauthier, elle va vouloir te faire confiance sur d'autres domaines. Elle va se dire, bah, si Gauthier, il est aussi bon quand il me parle de fermentation, il n'y a pas de raison que ses produits soient pas géniaux. Et donc, bah, j'ai envie d'en acheter. Et donc, c'est comme ça que ça va se passer. Tu pourras évidemment avoir un discours un petit peu plus commercial, tu vois, en expliquant, tes produits, comment tu les as conçus, donc un peu plus, tu vois, sur toi, ton savoir-faire, ta marque, sur peut-être tes témoignages de clients aussi, ça peut être intéressant. Mais disons que tu n'auras pas besoin de passer par la case prix barré, code promo, acheter maintenant ou ça sera perdu à jamais, tu vois.
Oui, et là, du coup, bah, c'est prendre la place, comme tu l'as compris, en fait, d'une espèce d'ambassadeur ou d'influenceur sur un marché sur une activité qui n'est pas encore très connue ou existante, donc le marché de la fermentation et de l'alimentation santé de demain. Donc, c'est pour ça que, comme tu me l'as fait comprendre, là, c'est la discussion en toute transparence est importante. Mais à ce moment-là, pour revenir à ma question d'origine, j'ai l'impression de comprendre, au final, qu'il faut que j'ai pas peur, en fait, d'employer le vocabulaire que j'utilise actuellement, parce que, en étant authentique, certes, au début, les gens vont peut-être être surpris quand je vais leur parler de bactéries, de microbiote intestinal, mais des effets. Et en fait, je vais leur partager mon jargon et tout de suite, ils seront tout de suite un peu plus conscients et aussi informés et ils pourront faire leurs propres recherches et tout de suite, ils ont le vocabulaire. J'ai pas à me brider sur mon vocabulaire au final pour rendre mon...
Non, et puis d'autant plus que moi, d'un point de vue extérieur, je ne connais rien du tout à ton domaine, mais le terme bactérie, le terme microbiote ne me fait pas, me fait pas peur. Tu serais en train de vendre des produits antidiarrhéiques, je te dirais, bon, là, faut faire gaffe. C'est pas le cas non plus, tu vois. Donc, je veux dire, t'es quand même sur quelque chose qui parle de la flore intestinale, de l'intérieur. Enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est des sujets qui sont des sujets assez acquis. Et franchement, si tu regardes sur les réseaux sociaux, à l'heure, si tu veux, on veut du vrai, incarné par My Better Self, tu vas avoir des femmes qui se mettent à nu quasiment avec leur bourrelet, et c'est beau aussi si tu veux. Et justement, je pense qu'on a envie maintenant de cette vulnérabilité, on a envie aussi d'une vérité et d'une certaine transparence. Et donc je pense qu'au contraire, tu as plutôt intérêt à jouer à fond sur cette vague, qui n'est pas qu'une vague, hein, mais qui est, je pense, un vrai besoin des consommateurs d'avoir de la transparence, d'être traité intelligemment, si tu veux. Et je pense, et ça c'est vraiment un message que j'aimerais te faire passer, et peut-être aussi au reste de notre audience, c'est en fait, les personnes qui achètent nos produits sont beaucoup plus intelligentes qu'on ne croit. Je pense que le marketing des années 80-90, où on essayait de refourguer tout et n'importe quoi aux gens en leur disant des choses qui sont fausses, bah, maintenant, ça fonctionne plus très bien. Ça fonctionne encore pour certaines marques, mais malheureusement, les bad buzz arrivent assez vite. Et donc, j'aurais tendance à dire, assumez, soyez transparent. Enfin, la transparence ne veut pas dire que tu vas tout dire. T'es pas obligé de dévoiler ta marge, t'es pas obligé, de tout dire. Mais par contre, en fait, une démarche de transparence où vraiment, en fait, tu vas être authentique et sincère, ça sera extrêmement apprécié, je pense, par une audience qui, en plus sur des domaines comme celui-ci, veut ça, vraiment, tu vois. C'est peut-être moins le cas typiquement dans le secteur du luxe dans lequel je suis, mais franchement, dans le domaine de la santé, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, parce qu'en fait, c'est quand même des aliments qu'on va mettre dans son propre corps, donc on a envie de comprendre.
Bah surtout, en fait, je t'avais posé cette question parce que j'étais tombé sur une étude qui me donnait des chiffres, justement, que 60% de la population française a une perception négative du terme fermenté et 27% pensent ne pas manger de produits fermentés tout court.
Ouais.
Donc, tu vois, c'était face à ce...
Non, mais c'est ça, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça génial. En fait, mais c'est pour ça que je te dis que t'as un boulevard. C'est qu'en fait, comme les gens n'y comprennent rien, et moi incluse, hein, comme on n'y comprend rien qu'on ne connaît pas, le fait d'éduquer, de montrer la valeur de ce type de produit, mais franchement, pour moi, c'est de l'or en barre. Ça veut dire que tu vas apporter vraiment de la valeur. Tu vas apprendre quelque chose aux gens, tu vois. Et quelque chose d'utile, en plus, puisque t'as l'air d'être vraiment convaincu et que t'es expert du domaine. Donc, moi, je trouve ça génial et je pense que t'as tout intérêt, justement, à montrer que c'est quelque chose qui est très peu compris comme domaine et que tu veux un peu renverser la vapeur sur cette image peut-être un peu dégradée du terme fermenté. Donc non, moi franchement, j'utiliserais ces termes sans honte, au contraire, en les assumant. Parce que si jamais t'en as honte et que de temps en temps tu le fais, ça va se sentir, si tu veux. Donc autant que tu les assumes pleinement, que tu te positionnes comme un expert du domaine, tu pourras d'ailleurs blaguer un petit peu avec ton audience à terme. Alors je sais pas si c'est ton style d'être blagueur, moi ça l'est, d'expliquer que justement au début tu te posais la question d'utiliser le terme fermenté parce que tu peux estimer que c'est pas très sexy, mais qu'au final tu t'es rendu compte que tu voulais plutôt adopter une démarche transparente. Je pense que tout ça, toutes ces histoires qui sont vraies, t'as intérêt en fait à les expliquer, et c'est ça qui va faire que ton audience va vraiment apprécier ce que tu fais. Le dernier point peut-être que je voulais aborder avec toi, c'était, parce que tu as commencé à me parler TikTok, tu as commencé à me parler d'Instagram. En fait, je pense qu'il y a quand même une réflexion à avoir de ton côté, qui va être quels sont les supports sur lesquels tu vas le plus miser. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas tellement de doutes sur le fait que tu as un énorme boulevard en termes de création de contenu. La question, c'est ensuite, comment est-ce que tu vas faire pour réussir à utiliser en fait au mieux, si tu veux, le plus efficacement possible ton temps pour diffuser ces contenus. Et donc, sachant que bah, à l'heure actuelle, entre les podcasts, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, les blogs, enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias existants. Quand on est peu nombreux à l'origine d'une entreprise, ben, naturellement, on peut pas forcément tout faire. Et donc, je pense qu'une des questions assez importantes pour toi, ça va être de se poser la question, sur quoi est-ce que je me focalise au début? C'est-à-dire que je pense qu'il faut que tu fasses des choix et que tu te focalises probablement sur 1, 2, 3 maximum domaines sur lesquels tu vas essayer de communiquer à fond, quitte à plus tard élargir, mais ne pas tout faire en même temps, parce que sinon, le risque, c'est que tu fasses tout un peu mal, tu vois.
Non, je pensais justement me concentrer sur TikTok. Je suis en cours de réflexion et je vais essayer de voir si ça, comment je peux gérer la création de contenu, parce que c'est, faut en produire beaucoup sur TikTok. Donc, faut que je vois cette organisation, et sinon, bah, je vais principalement rester sur Instagram et sur LinkedIn. Sachant que sur LinkedIn, là, j'ai entamé je commence à poster de plus en plus, mais pour me parler de l'innovation dans la food et des nouvelles tendances food. Je parle pas que de moi et de mon business.
Ouais.
Je parle également de tout ce qui se passe dans le milieu de la food aujourd'hui, pour être un petit peu le gars qui veille sur ce qui est sur les nouveautés. Et après, sur Instagram, je suis en train de préparer ce lancement stratégique d'éducation et de refonte de mon Instagram. Tout ça, ouais, c'est des stratégies que j'ai en tête.
Bah, c'est bien. Écoute, en tout cas, je pense que ces deux médias, en fait, sont très bons, hein. En tout cas, moi, j'ai pas d'avis particulier, si tu veux, sur qu'est-ce qu'il faut. Peut-être le conseil principal que je peux donner à toi et aux personnes qui nous écoutent, c'est, de façon générale, on est souvent asséné par les médias, par des personnes comme moi, de « il faut faire TikTok, il faut faire LinkedIn, il y a une super opportunité ». C'est un peu vrai, mais je pense qu'il faut aussi s'écouter et se dire bah, « en fait, je vais devoir passer beaucoup de temps, en fait, sur ce réseau social. Donc, en fait, il faut que je l'apprécie un minimum ». Et c'est vrai que moi, je vois beaucoup de gens en ce moment se lancer sur TikTok parce que c'est le truc à faire en ce moment, TikTok. Mais si vraiment ils aiment pas TikTok, s'ils arrivent pas à accrocher, si ça fait 10 fois qu'ils essayent qu'ils y arrivent pas, bah qu'ils n'essayent pas d'aller sur TikTok, c'est pas grave. Et si à l'inverse ils adorent LinkedIn, ils passent eux-mêmes naturellement du temps sur LinkedIn, bah qu'ils aillent sur LinkedIn, tu vois. Et donc je pense qu'il faut aussi se dire, moi, qu'est-ce qui me plaît, ça sera plus facile dans un premier temps, et une fois que je l'aurai maîtrisé, peut-être que je passerai à autre chose. Parce que au début, quand on crée une entreprise, il y a quand même beaucoup de choses à faire, donc autant que tu te concentres là où tu vas apporter un maximum de valeur ajoutée tout de suite. Mais donc typiquement, pourquoi pas Instagram, t'as l'air d'être déjà assez investi dessus, et puis pareil pour LinkedIn, ça a l'air d'être plutôt un bon choix.
LinkedIn, je suis assez investi. Instagram, j'apprends à m'y mettre. J'avais jamais l'habitude de poster. Là, du coup, je me retrouve dans une situation où je dois poster pour mon business. Donc, du coup, là, tu vois, sur Instagram, Atelier Flamel, on n'est que 715. Là, je viens de dépasser.
Bon, bah, messieurs, dames qui nous écoutaient et qui avaient envie de. Alors, fais-nous ton petit pitch, d'ailleurs, Gauthier. Si vous avez envie, quoi, de prendre mieux soin de votre votre santé.
Si vous avez envie de manger des produits gourmands, style des fromages, des sauces, des bons vinaigres, de la bonne huile d'olive, mais sans avoir peur, sans penser que c'est mauvais pour vous, bah, je vous invite à regarder du côté de l'atelier Flamel, parce qu'on est en train d'inventer des produits du quotidien, mais tous avec une plus-value santé, pauvre en sucre, avec un sourcing français de saison. Et le plein de probiotiques et de bactéries bons pour votre microbiote intestinal, qui a
et
des
donc
effets.
Concrètement, que je comprenne, Gauthier, le microbiote intestinal, c'est utile. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a envie de renforcer son microbiote?
On appelle communément le deuxième cerveau, même si en fait, traditionnellement, on a d'abord développé un système digestif avant de développer un système cognitif. Donc, je te parle de nos ancêtres il y a plusieurs millions d'années. Et en fait, c'est l'organisme qui contient toutes les bactéries, tous les mini-organismes qui nous protègent, et prendre soin de lui, ça a énormément d'effets, notamment un renforcement du système immunitaire, une amélioration de la peau, notamment au niveau de tout ce qui est acné adulte. Ça permettrait, il y a encore des études, de prémunir la chute des cheveux. Et là, au cours de l'année passée, il y a des chercheurs qui ont prouvé que les gens qui sont résistants au Covid, c'est notamment lié à leur microbiote intestinal. Et ceux qui sont victimes du Covid long, donc qui ont des effets secondaires depuis 2 ans, ils ont tous un point en commun, c'est qu'ils ont un microbiote intestinal dévasté. Donc là, ils sont en train de faire des essais cliniques de renforcement du microbiote pour essayer de soigner les gens atteints du Covid long.
Bon, bah, hyper intéressant. Donc, tout ça pour dire que le microbiote, il faut en prendre soin et que pour ça, Atelier Flamel est là. Et si jamais vous voulez apprendre des choses sur ces sujets que le terme de la santé vous intéresse, eh bien, vous savez où aller. Donc, n'hésitez pas à aller suivre notre ami Gauthier. Bon, Gauthier, écoute, j'espère que c'était quand même utile pour toi. En tout cas, moi, je pense qu'il faut que tu te libères complètement des craintes que tu as sur ces termes, parce que tu vois, là, tu en as très bien parlé. Je me permets de te donner un conseil, écourte un peu le propos et va plus directement au bénéfice client. mais je pense que t'as effectivement un beau boulevard devant toi et je te souhaite évidemment tout le succès du monde. Donc, bonne chance à toi pour la suite.
Bon bah, je te remercie pour tes conseils, Pauline, ton écoute et bah, hâte de voir la continuité de ton parcours également.
À bientôt, Gauthier.
À bientôt, Pauline.
Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a plu. J'ai pour ma part passé un très bon moment. Bah, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à diffuser cet épisode, bien sûr, autour de vous, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et j'en passe. Et puis, pourquoi pas un peu de bouche à oreille, hein, de vive voix, ça marche aussi. Et puis surtout, si vous souhaitez postuler à une leçon, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, Pauline Legno sur Instagram, sur LinkedIn, Pelegno sur Twitter. Et puis, pourquoi pas avec hello@paulinelegno.com. On répond à toutes vos questions. Merci à toutes pour votre attention et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.